vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est minuit ici à Paris, 22h temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 24h en France. On va décortiquer ensemble pendant une demi-heure toute l'actualité française et rien que l'actualité française à tête reposée.
Stéphane Genest.
Et d'abord le journal, avec à la une l'émotion de Gisèle Pelicot ce lundi en marge du procès des viols de Mazan. Elle, victime de son ex-mari et de 51 hommes, elle s'est exprimée. Le procès doit reprendre ce mardi. Il a été suspendu en raison de l'absence du principal accusé, Dominique Pelicot. Cela pour motif médical. Coup de théâtre à Bruxelles, le français Thierry Breton a claqué la porte de la Commission européenne. Il se dit désavoué par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. L'Élysée propose de le remplacer par Stéphane Séjourné. Au sommaire également, le discret rétablissement des contrôles à la frontière franco-allemande. Et l'été qui était radieux pour les tours opérateurs. Les Français sont partis en vacances en juillet et en août. Un chiffre en hausse par rapport à 2023.
Radio France Internationale.
Des mots forts ce lundi matin en France, les mots de Gisèle Pelicot, cette femme victime pendant une décennie de viol par une cinquantaine d'hommes jugés actuellement à Avignon, a remercié tout à l'heure les manifestants qui ont défilé à travers la France ce samedi pour la soutenir.
Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve, et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier. À travers toute la France, j'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls.
Le courage, la dignité et les remerciements de Gisèle Pelicot juste devant le tribunal d'Avignon ce lundi matin, donc avant l'ouverture du procès. Sauf que voilà, une nouvelle fois, le procès a été suspendu, cela jusqu'à ce mardi normalement en raison de l'état de santé du principal accusé, l'ex-mari de Gisèle Pelicot, Dominique. Explication signée Frédéric Genot.
Les uns parlent de situation anormale ou scandaleuse, les autres la comparent à un supplice chinois. L'incertitude fait partie du quotidien de ce procès hors norme qui réunit une cinquantaine d'accusés, leurs avocats, des journalistes du monde entier et un public nombreux. C'est la raison pour laquelle le président de la Cour a déclaré la semaine dernière qu'un report du procès serait une catastrophe. Il faudrait en effet tout reprendre depuis le début, sans compter que certains accusés pourraient demander la levée de leur détention provisoire en raison des délais. Dominique Pelicot sera-t-il en état de se déplacer dès ce mardi? Le scanner qu'il a passé dimanche indique qu'il souffre d'un calcul rénal, d'une infection rénale et d'un problème au niveau de la prostate. Un calcul rénal, cela peut se régler en un ou plusieurs jours, mais un calcul et une infection rénale, c'est plus compliqué à soigner. L'avocate de Dominique Pelicot a déclaré lundi soir que les deux médecins qui l'ont examiné estiment qu'il peut assister à l'audience moyennant quelques aménagements, notamment des temps de repos réguliers.
Frédéric Genot du service France de RFI. Après l'émotion suscitée par les révélations d'agressions sexuelles à l'encontre de l'abbé Pierre, l'Église de France est poussée à réagir. Le président de la Conférence des évêques de France réaffirme sa volonté d'aider les victimes et de contrer les accusations de silence depuis des années. Dans une tribune publiée ce lundi dans le journal Le Monde, il affirme que quelques évêques étaient au courant dans le milieu des années 50 de comportements graves de l'abbé Pierre à l'égard des femmes. Vous écoutez RFI, il est minuit 4, ici à Paris. Et dans l'actualité également, ce lundi, ce changement côté français à la Commission européenne. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a annoncé son départ de la Commission. Il se dit désavoué par la présidente Ursula von der Leyen, qui a selon lui demandé à la France de retirer son nom à la liste des candidats. Exit Thierry Breton au profit de Stéphane Séjourné, l'Élysée a proposé ce nom. Ce qui fait réagir en premier lieu Marie Toussaint, vice-présidente du groupe des Verts Alliance Libre Européenne au Parlement européen.
Il y a eu une démission de M. Breton, suivie une heure plus tard seulement par la désignation de Stéphane Séjourné. Donc le tout avait l'air très bien préparé par le président de la République, peut-être même le Premier ministre, on ne sait pas. C'est vraiment dommage à plusieurs égards. D'abord, on a un recul historique sur la parité, la présence des femmes au sein de la Commission européenne. Ça aurait donc pu être l'occasion pour la France de promouvoir une femme. J'aurais aimé une femme écologiste, engagée dans une transition dans la justice sociale, parce qu'on en manque terriblement au niveau européen, où les droites ballent le rappel tant sur l'humanisme que sur la transition écologique. Puis la deuxième déception, c'est qu'on s'attendait à ce que la démission de M. Breton soit flamboyante, peut-être même avec une saillie contre l'extrême droite en Europe. Finalement, c'est un double manquement de la France, un manquement à la fois eu égard à la parité, mais un manquement aussi, et c'est peut-être ça qui est le plus dommageable, un manquement de redire à Mme von der Leyen, de redire à la communauté politique européenne que l'extrême droite n'a pas sa place dans les instances de gouvernance de l'Union.
Des propos recueillis par Romain Lemaresqui et la politique, mais cette fois intramuros, puisque Michel Barnier est toujours à la recherche de son équipe ministérielle. Sa famille politique, les Républicains, qu'il a d'ailleurs à nouveau reçu ce lundi, lui mettent la pression. Pression qui vient également de la gauche, d'autant que des échéances budgétaires cruciales se rapprochent. Le projet de loi finance 2025 doit être présenté le 1er octobre, mais il pourrait déjà être repoussé, Valérie Gasse.
Le budget, c'est le principal dégât collatéral de l'absence de gouvernement. Avec des ministres démissionnaires chargés uniquement de gérer les affaires courantes depuis juillet, les arbitrages ont pris du retard. Et Michel Barnier, qui a été nommé seulement le 5 septembre, envisage même de demander un délai d'une semaine pour présenter le texte à l'Assemblée nationale. Une situation qui a provoqué le mécontentement du président LFI de la Commission des Finances, Éric Coquerel, qui a décidé ce matin de brandir un avertissement en forme de menace à Michel Barnier, celle d'aller à Matignon en personne pour récupérer les fameuses lettres plafond, des documents qui fixent les crédits pour chaque ministère et permettent de travailler sur les hypothèses budgétaires du gouvernement qui aurait déjà dû parvenir aux parlementaires. Éric Coquerel met notamment en avant sa crainte que cela ait un impact sur le débat budgétaire, un coup de pression qui a eu un effet immédiat. Matignon a fait savoir que ces lettres seraient transmises dans la journée à l'Assemblée. Il y a donc urgence pour Michel Barnier à former un gouvernement. Cela devrait prendre encore quelques jours, les nominations ne devraient pas intervenir avant la fin de la semaine.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. On jette un coup d'œil à présent à ce qu'il se passe chez nos voisins allemands. Parce que finalement, ça nous concerne aussi, Français, puisque les contrôles de toutes les frontières sont renforcés dans le pays depuis ce lundi matin. Toutes les frontières, donc celles aussi avec la France. 14 points de passage sont concernés en Moselle et en Alsace. À Kiel, par exemple, ville frontalière allemande, située près de Strasbourg, l'entrée en vigueur de la mesure ne change finalement pas grand-chose. Reportage sur place, signé Wilhelm Munoz-Boileau.
Au bout du pont de l'Europe qui relie Strasbourg à Kiel, une dizaine de policiers postés au bord de la route scrutent attentivement les véhicules et leurs passagers. Mais les contrôles ne sont pas systématiques, comme l'explique Dieter Huth, porte-parole de la police allemande.
On n'arrête pas chaque voiture ni chaque personne qui traverse la frontière. On procède à des contrôles ciblés et on fait en sorte de ne pas entraver le passage des travailleurs frontaliers en évitant de créer des bouchons.
Ce sont surtout les bus et cars de tourisme qui sont visés, car c'est le moyen de transport privilégié par les personnes qui cherchent à entrer illégalement en Allemagne. Malgré le retard qu'ils occasionnent, ces contrôles sont une bonne chose, selon cette passagère d'un Flixbus qui habite en Allemagne mais séjourne régulièrement en France.
Il faut quelque chose comme ça, parce que les bandits, ils sont partout. Hein.
Des effectifs sont également déployés en gare de Kiel et dans le tram en provenance de Strasbourg. En uniforme mais aussi en civil, les policiers opèrent jusqu'à 30 km après la frontière. Mais cet habitant de Kiel doute de l'efficacité de la mesure, rappelant que des contrôles renforcés ont été mis en place dès le mois de juin pour l'Euro de foot et les JO de Paris, ce qui n'a pas empêché les récents attentats en Allemagne.
Ce sont les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne qu'il faut renforcer, pas celles avec nos voisins.
Le renforcement des contrôles aux frontières entre la France et l'Allemagne est en vigueur pour une durée d'au moins 6 mois renouvelable. Wilhelm Munoz-Boileau, de retour de Kiel, RFI.
Et certains Français qui sont peut-être d'ailleurs allés en vacances en Allemagne cet été. Les chiffres de ces derniers mois estivaux commencent à tomber. Ils sont plutôt bons, hein. C'est ce que confirme le bilan estival du CETO, le syndicat des entreprises du tour operating. Le chiffre d'affaires de l'industrie des voyages organisés a gonflé de 5% malgré un nombre de clients en baisse. Et comme chaque année, Gali Bonin, les touristes ont voulu voir la mer.
Indétrônable, la Méditerranée reste le terrain de jeu de prédilection des Français. On y retrouve 9 des 10 premières destinations de voyage organisées cet été. Une région progresse plus que les autres, la botte italienne, avec 30% de voyageurs supplémentaires. Hervé Timon, directeur général du CETO.
Avec cette incertitude politique, l'Italie présentait un caractère de facilité. Je crois qu'aujourd'hui, les clients, effectivement, ils ne peuvent pas se permettre de louper leurs vacances et de faire en sorte que le budget consacré à leurs vacances fréquence soit altérée. Et donc, effectivement, ils font principalement le choix de la sécurité.
Les pays du Maghreb restent parmi les préférés des touristes. Mais si vous êtes en Tunisie, vous avez sûrement remarqué moins de Français sur vos plages. Destination numéro 1 de l'été 2023, le pays a perdu 10% de fréquentation. René-Marc Chicli, président du syndicat des voyagistes.
Les destinations comme la Tunisie, qui sont des destinations d'entrée de gamme, ont visiblement subi un peu les restrictions budgétaires de la part des Français, qui se disaient « bon, je pars pas cette année, je partirai peut-être l'année prochaine ou quoi que ce soit ». Ça a eu un impact sur une partie du Maroc, pas totalement, puisque le Maroc s'en sort pas mal du tout. C'est au même niveau pratiquement que 2023, qui était d'une excellente année.
Cet été, plus d'1,5 million de Français ont utilisé des services de voyage organisés pour leurs vacances.
Galy Bonin, nous sommes le mardi 17 septembre 2024. Il est minuit 10 ici à Paris.
24 heures en France. Stéphane Genest.
Et on l'évoquait dès le début du journal, le procès de Mazan a repris. Ce lundi matin, une nouvelle fois, sans le principal accusé, Dominique Pellicot, malade, doit subir une expertise médicale. Il est attendu demain, normalement, pour répondre aux questions des juges. Après avoir drogué sa femme pendant 10 ans pour la soumettre au viol d'autres hommes qu'il recrutait sur Internet, dont une cinquantaine sont aussi jugés en ce moment. Le procès, lui, se déroule en public. Gisèle Pellicot, elle-même, a refusé qu'il se tienne à huis clos. Elle l'a dit, elle veut qu'on la voie, qu'on entende ce qu'il s'est passé. Ce lundi, d'ailleurs, elle s'est adressée aux milliers de personnes qui ont manifesté en France ce samedi pour la soutenir. Les faits qui sont jugés ont évidemment choqué le pays. Alors ce procès peut-il changer quelque chose? Anne Cantner a posé la question à maître Nathalie Tomassini, l'avocate spécialiste des cas de violences conjugales et de harcèlement, était l'invitée d'Anne Cantner dans RFI Midi.
Il y a un argument qui a été mis en avant par l'un des avocats d'un des accusés, qui défend en fait plusieurs accusés d'ailleurs, et qui explique qu'en fait, il n'y a pas nécessairement de viol si la personne n'en a pas l'intention. On est d'accord que...
Alors,
est-ce que c'est ce que prévoit le droit ou non ?
Oui, absolument. Il faut savoir, il faut souligner que le viol n'est caractérisé qu'à partir du moment où il y a la réunion de deux éléments. L'élément matériel, là-dessus, il n'y a pas de questionnement possible puisqu'il y a des vidéos qui démontrent la réalité des faits. Mais il y a également l'élément moral. Et là, je me place du côté des autres accusés. Je ne me place pas du côté de M. Pellicot qui, de toute façon, lui, a avoué les viols de sa femme. Mais s'agissant des autres 51 accusés, 51 autres hommes qui ont participé à ces viols, leur défense, leur stratégie de défense, c'est de dire qu'ils ne savaient pas, qu'il s'agissait finalement d'un jeu pour eux, d'un jeu libertin, et qu'ils ignoraient totalement que la victime n'était pas consentante. Et dans la loi, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, notamment bucogénitale, d'une personne sur autrui, fait avec violence, menace, contrainte et surprise. Donc on n'a pas de notion de consentement. Donc ça va être compliqué de savoir si véritablement ces hommes savaient ou pas que Gisèle Pellicot n'avait pas donné son consentement. Ils se réfèrent au consentement donné par le mari, comme si cette femme n'était qu'une poupée gonflable qui n'avait pas finalement à dire si elle était consentante ou pas. Après, dans les termes de la loi, on peut se référer tout de même aux deux notions qui sont la contrainte, puisque là, elle était sous contrainte chimique, on le rappelle, et puis aussi la notion de surprise qui s'entend au terme de la jurisprudence comme finalement des victimes qui étaient... potentiellement endormies, inconscientes et qui ont été surprises par l'agression.
Donc ce qui était le cas là, il y a donc 51 personnes qui sont jugées en plus de Dominique Pellicot qui ont violé cette femme, Gisèle Pellicot, alors qu'elle était inconsciente. Des hommes qui viennent de toutes les catégories sociales et professionnelles. Ça montre au grand public quelque chose que les chercheurs, les chercheuses, les militantes féministes et les victimes répètent depuis des années, c'est que les violeurs peuvent être monsieur tout le monde. Est-ce que ça peut changer quelque chose, selon vous, dans la prise en charge du viol en France ?
Oui, ça va faire évoluer les mentalités, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, on le rappelle, même si depuis MeToo, il y a eu une déferlante de dépôts de plaintes s'agissant des violences sexuelles et sexistes, il n'y a toujours que 1% de ces plaintes qui aboutissent à une condamnation. Là, je crois que l'exposition médiatique de ce procès va faire prendre conscience aux magistrats qu'il faut agir et agir vite, parce que ce procès démontre aussi cette forme de bestialité ordinaire, monstruosité ordinaire des viols, comme vous l'avez rappelé, de Monsieur Tout-le-Monde. Donc la nécessité à la fois de faire évoluer les procédures, mais encore aussi la nécessité de faire évoluer la loi et peut-être rappeler que la notion de consentement volontaire libre et éclairé doit aujourd'hui être intégrée dans la définition du viol.
Alors il nous reste très peu de temps, mais on en a parlé très rapidement. Ces viols, ils sont documentés, filmés, et pourtant le président de la Cour a prononcé une phrase qui avait beaucoup choqué la semaine dernière, disant qu'il allait être question plutôt de sexe que de viol. Pourquoi ?
Très sincèrement, je me pose également la question de sexe, parce qu'il a peut-être voulu écarter, parce qu'il est président d'une cour d'assises et donc il se doit d'instruire à charge et à décharge, il a peut-être nécessairement pas voulu prononcer le terme de viol, qui est déjà la caractérisation d'une infraction. Pour moi, ça se situe à ce niveau-là. Il a pris des précautions et des réserves. Cela étant, je trouve très indélicat par rapport aux parties civiles et aux victimes d'avoir utilisé autant de délicatesse.
Maître Nathalie Tomasini, avocate spécialiste des cas de violences conjugales et de harcèlement. Elle était l'invitée d'Anne Cantner dans RFI Midi. RFI Midi, c'est tous les jours à partir d'11h, temps universel.
Reportage France.
Qui nous emmène dans le centre du pays à la rencontre de Margot et d'Emeric, qui, comme beaucoup de Français, ont adopté la camionnette pour voyager et pour vivre. Et quand je dis camionnette, je parle plutôt de van ou même de camping-car. C'est une véritable tendance, hein. On appelle ça la van life, un mode de vie alternatif qui met en avant une vie moins chère et beaucoup plus libre. Promesse qui a donc séduit Margot et Emeric. Eva Kling les a rencontrés à Azay-le-Rideau, c'est tout près des Châteaux de la Loire. Reportage.
Barnabé, c'est le petit nom de ce camping-car vintage. Margot et Emeric l'ont acheté cette année et depuis, ils passent leur week-end à l'aménager.
Ici se situe la cuisine. Donc on a changé pas mal de choses. On a repensé le blanc de travail, on a tout repeint. Puis là, t'as les petits placards. Et là, du coup, c'est un régulateur de charge parce qu'Emeric a installé deux panneaux solaires.
Je pense que ça va suffire parce qu'en fait, le camping-car, il va pas user tant d'électricité parce que la batterie vraiment du camping-car, c'est juste pour l'éclairage, la pompe à eau. Après, on a une batterie à part pour recharger les téléphones, appareils photo et tout ça.
Ensuite, tu as la salle de bain. On a tout enlevé. Avant, ça te faisait des grands placards en plastique avec toilettes chimiques. Donc maintenant, on a des toilettes sèches. On a des cuves d'eau. Il me semble que c'est 100 litres.
Et donc ça vous tient combien de temps, 100 litres ?
Bah, on ne sait pas encore. Ce sera des toilettes de chat pour garder l'eau au maximum. Ouais, maintenant, il faut le dévisser. On a tout fait nous-mêmes. Avant de partir, il reste pas grand-chose. Des petites étagères à placer. Le klaxon ne marche plus. Barnabé est un peu timide.
Un peu partout sur les placards et les portes, des photos et des affiches sont déjà collées.
Au-dessus du siège conducteur et passager, on a mis du liage et on a accroché plein de photos. Il manque encore des photos, mais il va y avoir des photos des copains et de la famille pour qu'ils soient un peu avec nous, entre guillemets. Puis à un moment donné, on a un gros manque, bah, on revient en fait.
C'est ça qui est pratique. Hein. Si t'en as marre, bah, tu rentres.
Voilà. Forcément, les premiers mois, ça va peut-être être un peu compliqué.
Non, mes parents, ils ont eu peur un peu.
Ce qui revient vraiment dans notre, dans notre famille, c'est est-ce que vous allez trouver du travail, quoi.
L'argent. Ouais. Il y a un gros réseau de saisonniers. Tu te mets sur une page Facebook et franchement, t'as des annonces tous les jours. Après, c'est pas des carrières, quoi. C'est du petit taf saisonnier sur 2-3 semaines.
Ça nous inquiète vraiment pas du tout.
Moi, c'était un projet en fond, quoi. Je m'étais dit, si je peux le faire, je le fais. Mais je pense que ce qui a déclenché aussi, c'est des galères de fin de mois.
Ouais.
C'est toi, ton taf, qui se passait mal.
Le stress du travail, c'est vrai que là, il y en aura beaucoup moins, quoi. C'est 2 semaines et puis après c'est fini et on passe à autre chose et hop. Donc en fait, tu te tracasses un peu moins. J'ai besoin de ça. Un gros plaisir pour nous, c'est de plus avoir de boîte aux lettres.
Presque, celle-ci est en métal blanc, remplie de post-it.
Les petits mots des copains.
C'est qui a écrit ça? Gros bisous les amis, merci encore pour ce week-end de folie.
Je suis droit?
Non, redresse-la un peu. Oh, remonte. Attends, ma foi.
Il n'y aura pas de facture dedans. Quand on revient, on a le projet d'acheter une maison sympa, de faire des travaux dans la maison.
Bien voyager avant de se poser, quoi.
On n'a rien qui nous empêche de le faire à l'heure actuelle. Donc bien profiter, puis quand on revient, on...
Profiter autrement.
Profiter autrement.
Et bon voyage à Margot et à Henrik. La van life, un mode de vie alternatif qui séduit les jeunes. Reportage France signé Eva Kling. Il est minuit 19 ici à Paris. On voyage minuit 19 à Papeete.
Le journal de l'Outre-mer.
Midi 19 précisément à Papeete et à la une, la Polynésie frappée par des intempéries. Bonsoir Tessa Groman.
Bonsoir. Des pluies torrentielles se sont abattues sur Tahiti, provoquant d'importantes inondations. La côte est a été particulièrement touchée. Miri Toumatariri est allée sur place.
PK47, sur ce tronçon de route de Faouné, les voitures peuvent encore circuler sans danger. Le niveau de l'eau est descendu et les habitants sont à pied d'œuvre pour dégager le passage. Ahou Ouraï, sa mère, levée aux aurores, commence à sentir la fatigue.
Ben, on a commencé à déboucher les caniveaux. Et on est fatigué qu'à chaque fois que quand il pleut fort, ben, il y a des inondations dans nos maisons.
PK49, les choses se corsent un peu plus. Mylène est aux aguets. Elle ne quitte pas son oncle des yeux. L'homme est quasiment immergé dans le caniveau qu'il essaye de déboucher.
C'est pour venir l'aider. J'ai pas envie qu'il soit emporté par le caniveau. Là.
À travers, même topo. Au niveau de Faratea, les agents communaux ont sorti les pelles pour déblayer cette fois-ci du sable qui obstrue les évacuations d'eau. Jules Marais Auria.
On essaie de déboucher ce caniveau parce que je pense que le lagon a emmené le sable à l'intérieur des bus. Et ça, il faut un autre moyen pour le déboucher parce qu'on ne peut rien faire comme ça.
Météo France annonce une amélioration du temps, mais les pompiers et les agents communaux de Tayarapu-Ouest restent en alerte.
Depuis 3 semaines, les pompiers luttent contre un feu de brousse dans l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie. Plus de 1000 hectares de végétation sont partis en fumée. On écoute l'adjudant Vaquier de la sécurité civile de Koné. Il répond à Brice Bachon.
Donc, depuis hier, on a mis en place plusieurs camions pour protéger 3 habitations sur la tribu de Naud, donc sur le district d'Arama. Donc, on a été aidé par la population et nous, notre mission d'hier, c'était de protéger les 3 maisons qui étaient sur l'est. Et là, aujourd'hui, on essaie de parfaire les extinctions et on s'aperçoit que le vent d'est, on a pas mal de repousses. Les équipes sont sur place. Donc là-bas, on l'a fixé et là on envoie des équipes. Là. Tout de suite, on va faire décoller notre drone parce que ce feu-là qu'on vient de voir, qui est à l'arrière du feu, on va vérifier s'il n'y a pas d'habitation. Donc là, on a besoin encore de faire des reconnaissances sur des secteurs qu'on n'a pas reconnus et on va pouvoir affiner nos dispositifs.
En Martinique, le mouvement contre la vie chère se durcit. Lundi, des militants ont érigé des barrages pour bloquer la circulation et des violences ont éclaté 2 nuits de suite à Fort-de-France. Dans la nuit de vendredi à samedi, des manifestants ont tiré à balles réelles sur la façade du commissariat de la ville. 150 cambriolages depuis le début de l'année à Saint-Laurent-du-Maroni. La 2e ville de Guyane en nombre d'habitants est régulièrement secouée par des affaires de violence, mais aussi de vol. La population tente de se prémunir contre les cambriolages. Reportage.
Il faudrait que vous soyez devant la porte et logiquement ça va détecter. Voilà.
Depuis plusieurs mois, notre témoin que nous allons appeler Sandre s'est équipé d'un système de sécurité. Cambriolé plusieurs fois à son domicile, Sandre a dû débourser plus de 2000 euros pour se sentir en sécurité. Et à Saint-Laurent-du-Maroni, ils sont nombreux à vouloir se protéger, comme l'a constaté Johan Ellis, gérant d'une société de sécurité.
Les gens aujourd'hui veulent voir et savoir ce qui se passe chez eux.
Qu'est-ce qui est le plus demandé en termes de sécurité chez les Saint-Laurentais ?
Ils veulent la partie alarme et aussi les caméras qui permettent de pouvoir voir et aussi que les proches de l'Hexagone aussi parfois puissent savoir ce qui se passe aussi.
Chez Sandre, le système de sécurité a rapidement prouvé son efficacité en identifiant son cambrioleur. Aujourd'hui, Sandre envisage de quitter la capitale de l'Ouest guyanais.
Je ne peux pas être sur le qui-vive en me disant c'est qui le prochain.
Depuis le début de l'année, près de 150 résidences principales et secondaires ont été cambriolées à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est moins que l'année dernière, mais c'est toujours trop pour les Saint-Laurentais.
Ouverture ce lundi de la Semaine européenne des mobilités. À cette occasion, ce week-end, le vélo était à l'honneur à la Réunion avec la Vélorussion. Dans l'Ouest, 500 personnes ont participé à la randonnée, un événement organisé par le territoire de l'Ouest pour promouvoir cette alternative aux tout-voitures. Harry Amourani, Réunion la première.
Pour Grégory et son fils Simon, 8 ans, ce week-end était placé sous le signe du vélo.
On participe régulièrement au rando vélo, comme chaque année, très bien encadré, bonne ambiance, franchement ouais, c'est le top.
Le patrimoine pays est également à l'honneur, Naren Mayandi, chef de projet au territoire de l'Ouest.
Nous sommes dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, il y a aussi les journées du patrimoine, et ça nous permet de faire un trait d'union, notamment au port, où nous avons vu les arbres centenaires qui sont situés sur l'avenue de la commune de Paris.
Une recette qui fonctionne, Emmanuel Séraphin, le maire de Saint-Paul, également président du TO.
Il y a des pistes qui vont être livrées le long de la route
route nationale entre Le Port et Saint-Paul. Et nous-mêmes, nous travaillons à réfléchir avec le département comment accéder aux routes départementales dans les Hauts, parce qu'il y a une très grosse demande pour sécuriser ces routes.
Mais pour l'instant, c'est bien le grand sentier littoral ouest qui se dessine, de la Possession à Saint-Leu.
Voilà pour les nouvelles des Outre-mer. Bonne soirée.
Merci beaucoup Tessa Groman. Très bonne soirée à vous aussi.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Le Conseil Santé de 24 heures en France sur RFI pour prendre soin de vous et soin de vos proches. Et on revient précisément sur les questions que se posent les femmes, Caroline Paris.
Professeur Papalamine Faye, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychiatre, directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement de psychopathologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors quelles peuvent être, professeur, les conséquences sur le plan de la santé mentale quand on assume seul l'éducation, la responsabilité des enfants ?
Beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'épuisement. Quand on se retrouve seul justement en train de gérer les enfants alors qu'on était à deux sur ce projet, ça devient un grand bouleversement dans notre vie, surtout au début. C'est très, très, très difficile. Ça peut provoquer de l'insomnie, ça peut provoquer des angoisses, parfois même de la déprime, parce qu'on a l'impression de toujours courir et tenir un bateau pour ne pas qu'il coule. Et ça, c'est sur le plan de la santé mentale, effectivement, il y a des effets qui sont quand même assez néfastes. D'où l'intérêt de vraiment s'autogérer pour mener sa barque à bon port. Je le dis parce que tout simplement, on a des enfants qui comptent sur nous et nous sommes le leader de cette équipe et il va falloir effectivement être bien dans sa peau pour pouvoir faire en sorte que toutes les choses se passent bien. Sinon, on risque de créer beaucoup d'insécurité, au-delà de nous, ce que nous vivons, qui est déjà de l'insécurité aussi.
Justement, gérer son temps et dans quel cas précis faire appel à l'extérieur parce qu'on se met et on met la famille en danger.
Et c'est important aussi, effectivement, de compter sur des ressources extérieures parce qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. On est seul, c'est pas une faiblesse, c'est tout au contraire savoir mobiliser autour de soi toutes les forces nécessaires parce qu'on a avec soi des gens qui ont besoin de vous, qui dépendent de vous. Il est important de pouvoir coopter toutes les ressources et de ne pas juste s'enfermer dans sa solitude, essayer de gérer les choses, encore moins d'être dans la plainte parce que ça ne règle absolument rien. La réalité est là, nous a rattrapés, il va falloir maintenant la gérer comme il faut pour que les enfants justement n'en ressentent pas le contre-coup.
Merci professeur Papalamine Faye. Aujourd'hui dans Priorité Santé, vos questions au docteur Sen, médecin du sport. On va parler activité physique et santé, lutte contre la sédentarité, choisir la bonne pratique sportive. Pour nous joindre, 33 7 61 18 46 41. On se retrouve à 9h10, 1h10, temps universel. Et quand vous le souhaitez, en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
C'est tout bon, c'est bien noté. Merci Caroline Paré. Et c'est ainsi que se referme cette édition de 24 heures en France, votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité française. Aux manettes ce soir, Valentin Vaner, merci à lui. Le retour de l'actualité, c'est dans un peu plus de 2 minutes. Afrique Soir, présenté en ce lundi soir par Alexis Guilleux. Mais en attendant, comme tous les soirs, à 7h06, minuit 27 et 26 secondes pour être précis, ici à Paris, petit détour à la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et comme tous les soirs, avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur une hausse de 228 points et atteint 41 622. L'indice du Nasdaq cède 92 points et clôture à 17 592. Le Nasdaq subit en effet le contre-coup de dégagement affectant des valeurs des semi-conducteurs, à commencer par Nvidia et Broadcom. Apple, poids lourd du Nasdaq, mais aussi du Dow Jones, chute de près de 3% sur l'impression que la demande pour son nouveau modèle d'iPhone, l'iPhone 16, n'est pas aussi forte que prévu. Plusieurs analystes fondent cette conclusion sur les délais de livraison plus brefs que l'année dernière observés pour l'iPhone 15 Pro. Intel à contre-courant voit son cours grimper de plus de 6%. Le pionnier de la Silicon Valley est éligible à une aide fédérale de 3,5 milliards de dollars en vue de fabriquer des composants électroniques pour le Pentagone. Les investisseurs attendent l'annonce mercredi d'une baisse de taux directeurs par la Réserve fédérale. Ils se sont remis à croire à un abaissement possible de 0,5% du taux des Fed Funds et non plus de 0,25%, et ce en raison des signes de ralentissement de l'embauche par les entreprises. Le rendement du T-Bond à 10 ans ce soir retombe à 3,62. L'euro grimpe à 1,1128, tandis que le baril de pétrole américain s'offre plus de 3%, revenant à plus de 70 $. Les perturbations provoquées par l'ouragan Francine dans le golfe du Mexique, en Louisiane et au Texas, continuent d'affecter la production de pétrole. Le Dow Jones aujourd'hui avance de 0,6%, le Nasdaq recule de 0,5%.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Un an après sa création par les militaires au pouvoir au Mali, Niger et Burkina Faso, l'alliance des États du Sahel vous semble-t-elle crédible? Coopération sécuritaire, projet commun de développement économique et social, quel bilan dressez-vous? Appelez-nous.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.